RFI Radio France Internationale, 6h30 à Paris, 7h30 à Goma. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo à la une encore de cette édition. Un dimanche bien plus calme dans le sud Kivu sur les fronts des combats avec le M23 soutenu par le Rwanda. Le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, lance un appel au dialogue. Tandis que l'armée confirme avoir mis aux arrêts des militaires de ses propres rangs ainsi que des Wazalendo suspectés de graves exactions dans des villages du sud Kivu. Les toutes premières pluies précoces et inattendues sur Bangui, elles font des dégâts sur les collines du PK13. Notre correspondant nous en rend compte dans quelques minutes. Les liens plus étroits encore entre le Maroc et Israël, qui s'illustrent dans un accord de vente d'armes, Rabat choisit des canons lanceurs d'obus d'une entreprise israélienne. Sidiki Diabaté cambriolé alors que lui-même donnait un concert, c'est le domicile de sa sœur, par ailleurs sa manageuse, qui a été pris pour cible sans violence, mais il y avait deux jeunes enfants sur place. On parle aussi intelligence artificielle, bien sûr, sur nos antennes sommet mondial à Paris. Illustration africaine au Kenya dans une dizaine de minutes. La principale figure de l'Église catholique en République démocratique du Congo appelle au dialogue, ne pas céder aux paroles belliqueuses, dialoguer même avec ceux que nous considérons comme nos ennemis, déclaration de Fridolin Ambongo, le cardinal de Kinshasa, et cela plus de deux semaines après le début de l'offensive du M23, soutenue par le Rwanda dans le nord, puis le sud Kivu. Hier a été une journée relativement calme sur le front des combats. Les pays de la sous-région, SADC et EAC, on le rappelle, se sont donné 5 jours ce week-end pour trouver le moyen de faire tenir un cessez-le-feu. Dans la ville de Goma proprement dite, 2 semaines après l'assaut sanglant du M23, les traces et les dégâts du conflit sont encore particulièrement visibles. Et puis il y a aussi les blessures non dites et ces appels pressants pour la fin des violences. François Mazet.
Au quartier Mapendo d'Iberere, les affrontements ont été très violents entre les FARDC et les miliciens du M23. Sur l'avenue KMB, on observe un calme apparent, des enfants jouent aux dames, mais au fil de la marche, on longe les habitations détruites par des bombes. Amissi et Louise ont perdu des proches lors des combats.
Ça nous a laissé orphelins, perdre un père, un être cher dans la maison, c'est pas facile. C'est pour cela que je dis à nos supérieurs, s'ils pouvaient négocier, ils négocient, qu'on puisse laisser cette guerre. Vraiment, ça nous fait tellement mal.
Quand les bombes ont commencé à exploser, mon enfant a été touché par un obus ici devant la porte et le corps a été amené à la morgue de l'hôpital Charité. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment il a été enterré. Vraiment, qu'on nous aide à mettre fin à cette guerre.
À côté de la frontière avec le Rwanda, Ginza Banita a perdu 3 proches et sa maison en planche a été complètement détruite.
C'était un certain lundi, il y a une bombe qui a fini son trajectoire vers notre maison, 2 maisons. Alors c'est comme ça qu'on a connu 3 morts. Il y a ma grand-mère et il y a 2 de nos voisins qui s'abritaient dans notre maison. Et on a eu 4 blessés, le papa qui a reçu le balle sur sa jambe. Il faut vraiment une réparation parce qu'on a perdu beaucoup de choses parce qu'on est en train de supporter les soins médicaux de nos propres moyens. On achète le médicament de nos propres moyens.
À l'image de Guy, de nombreuses familles de victimes demandent des aides et des réparations.
Dans la province du Sud, Kivu cette fois, l'armée annonce des interpellations dans ses propres rangs. Des dizaines de militaires des FARDC et de combattants Wazalendo mis aux arrêts après que la société civile a rapporté des pillages et des exactions violentes. Au moins 9 personnes tuées il y a 3 jours dans les villages de Miti et Kavumu. Des pillages dans les villages de Katana, Nyangezi et jusque dans Bukavu même. Les suspects ont été conduits à la prison centrale de Bukavu. Ils doivent être jugés par une cour militaire. Le gouverneur du Sud Kivu souhaiterait même des audiences foraines sur les lieux des faits. Le porte-parole de la 3e zone de défense appelle au calme. Il promet qu'il n'y aura aucune tolérance à l'endroit de ceux qui ternissent l'image des FARDC. Le major Nestor Mavoudissa au micro RFI de William Bassimike.
Le lieutenant général Pacifique Massoujou a pris avec la plus grande consternation les actes d'indiscipline commis par nos militaires d'une unité en provenance du front qui ont posé des actes barbares au mépris de notre population que nous sommes censés protéger. Ils sont appréhendés et doivent être jugés publiquement et sanctionnés pour qu'ils puissent servir d'exemple. L'indiscipline n'a plus de place dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceux qui vont marcher à l'encontre, où qu'ils soient, seront tous sanctionnés et déférés devant la justice. La discipline est la mère des armées. Sans la discipline, nous n'aurons pas une armée. Les brebis galeuses qui veulent ternir l'image de notre armée seront sanctionnés incessamment. C'est pourquoi, à ce jour, nous sommes en train de concert avec la justice militaire, la cour militaire du Sud-Kivu, d'organiser des audiences publiques afin que ceux qui sont déjà arrêtés puissent servir d'exemple pour les autres.
Le porte-parole de la 3e zone de défense, le major Nestor Mavoudissa, par ailleurs. Et c'est en effet très collatéral de ce conflit dans l'est de la RDC. Le championnat de football congolais s'en est trouvé bouleversé ces dernières semaines. Des matchs annulés, par exemple. Mais les instances nationales du ballon rond proposent un nouveau calendrier pour la fin de la saison. Vous en retrouvez les détails avec Olga Massangou sur notre site RFI.fr.
RFI.
Les habitants de Bangui ne les attendaient pas avant au moins 2 semaines. C'est dire s'ils ont été pris de court par les fortes pluies qui se sont abattues hier après-midi sur la capitale centrafricaine. Elles n'ont pas duré longtemps, mais elles, plus le vent violent qui les a accompagnées, ont entraîné des dégâts matériels. Une dizaine de ménages, essentiellement situés sur les collines du PK13 dans le nord de la ville, ont été ravagés. Et Rolf Steph Domielle s'est rendu sur place.
Si la pluie s'est arrêtée, les habitants de PK13 ne peuvent que constater les dégâts. Marteau en main, le visage désespéré, Basile essaie de réparer la toiture de sa maison détruite par le vent.
Nous sommes dans une situation critique. En plus de la toiture emportée, j'ai perdu la plupart de mes biens. Ma maison est en argile et elle ne résiste pas au vent violent. Nous vivons proche de la colline, exposés au vent.
Un bar dévasté au bord de la route, c'est celui de Pierre Amos. À bout de force, il tente d'organiser le nettoyage.
C'est juste le mangue là qui a provoqué tous ces dégâts. On a perdu également la cave entier, et ainsi qu'il y a une boutique qui est à côté, la boutique aussi a subi des peines aussi. Mais on a eu aussi des pertes, des appareils, des sonorisateurs, il y a des bières qui sont là à l'intérieur, et puis ainsi que le congélateur. Il y a des produits qui sont noyés, et il y a aussi des appareils, par exemple mon ordinateur s'est noyé aussi, mais il n'y a pas pertes humaines.
Sac sur le dos, Priscille et ses enfants marchent en direction du PK12 pour se réfugier chez des proches. Leurs vêtements sont en partie recouverts de boue.
Les dégâts sont importants pour moi. Je ne peux pas dormir dehors avec mes enfants. C'est pourquoi on part chez ma sœur. Tous les caniveaux sont bouchés parce que certains habitants y jettent les ordures.
Alors que la saison des pluies approche à grands pas, les notables du quartier pensent qu'il est impératif de trouver des solutions à 2 problèmes, l'incivisme de certains et l'urbanisation anarchique de la zone. Rolf Steve Doumerle, Bangui, RFI.
Bangui, où il est 6h38, même heure à Rabat, les forces armées marocaines qui continuent d'étoffer leurs équipements et qui font affaire pour cela avec une entreprise israélienne. Selon le journal économique français, c'est La Tribune, Rabat choisit le groupe Elbit System pour 36 pièces d'artillerie de longue portée. Les pièces françaises que possède déjà le Maroc connaîtraient de lourds problèmes de maintenance. Au-delà de ces achats, on apprend aussi que le pays pourrait devenir le premier du continent africain où l'entreprise turque Baykar construirait des drones. François Humfer Kataji.
Plutôt que d'opter pour les canons César du français KNDS, Rabat a choisi un autre système d'artillerie autotracté, celui de l'israélien Elbit System, rapporte le quotidien français La Tribune. Une décision qui sonne comme un revers pour l'entreprise française, alors que les forces royales armées marocaines étaient déjà équipées du système César de KNDS. Le Maroc acquiert donc 36 pièces d'artillerie Atmos 2000 qui seront montées sur des châssis de camions de l'entreprise tchèque Tatra. Ce type d'équipement est conçu pour favoriser une grande mobilité et un déploiement rapide. Ce seraient des problèmes concernant la maintenance des systèmes César qui auraient conduit Rabat à choisir Elbit System. Selon le CIPRI, un institut de recherche suédois spécialisé dans les ventes d'armes à travers le monde, Israël est devenu le 3e exportateur de matériel militaire au Maroc, fournissant plus de 10% de son armement. Alors que le budget de la défense au Maroc a connu une hausse de 7% en 2025 par rapport à l'année précédente, une autre nouvelle a fait couler beaucoup d'encre récemment, l'annonce discrète au bulletin officiel de la constitution d'une entreprise au Maroc directement liée à la firme turque Baykar. Cette dernière pourrait devenir la première entreprise à construire des drones Bayraktar sur le sol africain. François Humfer Kataji, Casablanca, RFI.
Sidiki Diabaté, dépouillé de 190 000 euros. Des braqueurs ont fait irruption avant-hier chez la sœur du musicien malien qui est aussi sa productrice et sa manageuse. Elle assistait à un concert que Sidiki Diabaté donnait lui-même à une trentaine de kilomètres de là. Le braquage s'est déroulé sans violence physique. La justice française ouvre une enquête. Guillaume Thibault.
Samedi soir, vers 22h30, alors que Sidiki Diabaté est en plein concert, 3 braqueurs, cagoulés et munis d'une arme de poing, sonnent au domicile de sa sœur à Tremblay en France. Djelika Diabaté est aussi la manageuse et la productrice de l'artiste. Elle est avec lui au concert à la Défense Arena. Chez elle, c'est une babysitter qui garde deux enfants de 3 et 4 ans qui ouvre la porte et tombe nez à nez avec les braqueurs. La nourrice, qui a indiqué à la police n'avoir subi aucune violence, doit se mettre à genoux et se retourner. Les voleurs s'emparent du coffre-fort, prennent aussi des sacs de marque et repartent immédiatement. Selon la police, Djelika Diabaté a indiqué avoir déposé samedi après-midi 190 000 euros, près de 125 millions de francs CFA, des recettes de la tournée en cours en Europe dans son coffre-fort. La famille Diabaté a déposé plainte. Une enquête pour vol avec arme a été ouverte par le parquet de Bobigny.
Guillaume Thibault, quelques lignes de la politique sénégalaise où un nouveau mouvement d'opposition a vu le jour hier, emmené par Khalifa Sall. Il s'appelle le Front pour la défense de la démocratie et de la République. Il comprend 73 organisations, parmi lesquelles le Parti socialiste, l'APR de l'ancien président Macky Sall ou encore le Parti Réoumi de l'opposant Idrissa Seck. Quelle place, enfin, le continent africain joue-t-il, va-t-il et peut-il jouer dès lors que l'on parle intelligence artificielle? À quelques heures de l'ouverture d'un sommet sur l'IA, où Paris attend les plus fines huiles de la planète en la matière, on interroge évidemment la place de l'Afrique. Certains de ces pays, Kenya, Madagascar par exemple, ont été parmi les pionniers de la construction des algorithmes. Même si le travail de ces cliqueurs de l'ombre fait partie des plus ingrats et des plus durs qui soient, les jeunes kényans s'en servent aujourd'hui mieux que quiconque. Qui, dans la classe politique par exemple, a des affaires de corruption qui lui collent à la peau? Que dit la loi de finances sur tel ou tel sujet en particulier? Gaël, Alex, demandons à Léa.
Sur Corrupt Politicians GPT, un chatbot, c'est-à-dire une conversation générée par intelligence artificielle, les Kényans peuvent se renseigner sur les affaires de corruption qui impliquent leurs élus. Finance Bill GPT répond également à toutes leurs questions sur la loi de finances 2024, celle qui a déclenché le mouvement de protestation de la Gen Z. L'ingénieur informatique Kelvin Ndemo, plus connu sous le pseudo Kelvin N sur X, en est le créateur. Selon lui, la Gen Z construit aujourd'hui la technologie qui alimentera la révolution. Pour la chercheuse Jane Munga de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, ces nouvelles technologies ont été un accélérateur de la révolte, alors même que le Kenya est déjà à la pointe du cybermilitantisme sur le continent. Début juillet, le ministre des Affaires étrangères kényan a écrit aux chancelleries pour faire part de son inquiétude quant à l'intelligence artificielle et à la désinformation qui, selon lui, alimente l'instabilité nationale et mondiale ainsi qu'une cybercriminalité toujours opportuniste. En juin, une proposition de loi de régulation des technologies de l'information a été déposée au Parlement kényan. Gaël, Alex, Nairobi, RFI.
Un sujet et sans doute de très nombreuses questions. Juan Gomez consacre une première partie un peu spéciale d'appel sur l'actualité ce matin pour répondre à vos interrogations sur l'IA. Émission depuis la Bibliothèque Nationale de France, toujours à 8h10 en temps universel. Et vous en parlez vous aussi, Andréane Mellard, dans la suite de RFI Matin.
Merci, Edouard. Oui, on va parler intelligence artificielle, notamment avec une